Le balado du cours GED 862, rapport de fin d'études, Université de Sherbrooke.
Imaginez la scène. Il est 9 heures, la cloche sonne pour le début de la première période. Comme directeur d'école, je suis dans le corridor. Je marche mon école, comme on dit. J'observe les élèves se diriger vers leur classe. Mais rapidement, quelque chose attire mon attention. Devant les bureaux des éducateurs spécialisés, une file se forme. Plusieurs élèves attendent. Certains sont en colère, d'autres pleurent. Ils veulent probablement voir une TES pour raconter un conflit vécu ce matin, hier à la maison, dans l'autobus ou sur les réseaux sociaux. Pendant qu'ils attendent, la première période a débuté et il manque du temps de classe. Ils arriveront en classe en retard avec tout ce que ça implique. Certains revivent leurs disputes en boucle. D'autres croisent la personne avec qui ils sont en conflit. Les émotions montent, les intervenants font leur mieux, mais les demandes arrivent de toutes parts. Il n'existe clairement pas de mécanisme clair, rigoureux et uniforme pour traiter ces situations. Cette scène, je l'ai observée à plusieurs reprises sous différentes formes et elle a été l'un des déclencheurs qui nous ont amenés à développer une structure appelée première ligne. Bonjour, je m'appelle Vincent Huard et je suis directeur d'une polyvalente au Centre Service scolaire des Hautes-Rivières situé en Montérégie. Aujourd'hui, je vous présente un outil de gestion développé dans notre milieu afin d'améliorer la prise en charge des situations de violence, d'intimidation et de conflit entre élèves. Ce projet a également constitué l'objet d'un travail réalisé dans le cadre de la maîtrise en gestion d'éducation et de la formation à l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Donc, avant la mise en place de l'outil, notre école faisait face à plusieurs défis au niveau de la lutte et de la gestion des conflits. Nous ne disposions pas d'un cadre suffisamment structuré pour gérer les signalements. Les délais d'intervention variaient beaucoup selon les situations. Certains dossiers étaient traités rapidement, alors que d'autres prenaient davantage de temps. Dans certains cas, des situations pouvaient même passer entre les mailles du filet et être carrément ignorées. La coordination entre les intervenants était parfois difficile et la traçabilité des suivis demeurait limitée. Cette réalité compliquait la prise de décision et rendait plus difficile l'évaluation de l'efficacité de nos interventions. Parallèlement, nous devions répondre à plusieurs exigences organisationnelles, notamment celles associées à la loi 56 sur la lutte contre l'intimidation et la violence. Nous souhaitions aussi améliorer le climat scolaire et le sentiment de sécurité des élèves. À l'époque, seulement 52 % des élèves déclaraient se sentir bien à l'école selon les données provenant des sondages faisant état de la situation lors de la réalisation de notre plus récent projet éducatif. Prenons l'exemple d'un élève victime d'intimidation. Il signale une situation. Le message circule entre plusieurs personnes. Il n'existe pas toujours de mécanisme clair pour déterminer qui doit intervenir. Le délai s'allonge. L'élève n'obtient pas de nouvelles. Il peut avoir l'impression que personne ne s'occupe ou ne se préoccupe de lui et de ce qu'il vit. Peu à peu, sa confiance envers l'institution diminue et le problème risque de s'aggraver. C'est précisément ce que nous voulions éviter. Notre objectif était simple, mettre en place un système permettant une prise en charge rapide des signalements et faire des interventions adéquates basées sur des formations normées, de centraliser l'information et d'assurer un meilleur suivi des situations. Nous souhaitions également appuyer davantage nos décisions sur des données plutôt que sur des impressions ou des perceptions isolées. En résumé, nous voulions passer d'une gestion parfois intuitive et fragmentée à une gestion structurée, cohérente et soutenue par les données. Pour y parvenir, plusieurs compétences de gestion ont été mobilisées. L'analyse des données, le jugement professionnel, le leadership organisationnel, la vision systémique du climat scolaire et la collaboration entre les différents professionnels de l'école. Au niveau des fondements théoriques, le développement de l'outil s'appuie sur plusieurs travaux scientifiques, plus spécifiquement les travaux de M. Steve Bissonnette et ses collaborateurs concernant le climat scolaire et la gestion des comportements. Les travaux de René Bréard et de Jean-Michel Pastor ont également inspiré notre réflexion sur la communication et la gestion des conflits. Finalement, les travaux d'Éric Morissette ont permis de mettre en lumière l'importance de la socialisation scolaire et du rôle collectif de l'équipe école dans l'accompagnement des élèves. Ce dernier a d'ailleurs rencontré l'ensemble de l'équipe école dans le processus de sensibilisation. L'ensemble de ces perspectives convergent vers une même idée. Les interventions sont plus efficaces lorsqu'elles sont rapides, reposent sur des données fiables, une coordination claire et une responsabilité partagée. Au niveau de la méthodologie, le projet s'est développé en plusieurs étapes. D'abord, nous avons identifié le besoin à partir des difficultés observées dans le milieu. Ensuite, nous avons analysé la situation à partir de diverses sources de données, les données du PEVR, les observations du personnel, les perceptions recueillies dans le milieu et les travaux d'un comité dédié au sujet à l'école. Nous avons ensuite consulté les références théoriques pertinentes afin de concevoir une solution adaptée à notre réalité. L'outil développé repose sur deux éléments principaux. Une plateforme de signalement et une structure de prise en charge permettant rapidement d'attribuer les situations aux intervenants concernés. Des sondages, des entrevues, des groupes de discussion et l'analyse des données quantitatives ont ensuite permis de valider et d'ajuster le fonctionnement de l'outil avant son implantation complète. Concrètement, que permet l'outil Première Ligne? Il permet à un élève, témoin ou victime, un parent ou à un membre du personnel de signaler rapidement une situation grâce à un code QR présent dans l'agenda, sur les murs de l'école et sur notre site Web. Un formulaire papier est aussi disponible partout dans l'école. Rien de compliqué, comme on peut le constater. La demande est ensuite centralisée, attribuée à un intervenant compétent qui le prend en charge rapidement et qui va suivre donc l'événement jusqu'à sa conclusion. Chaque étape est documentée, ce qui assure une meilleure traçabilité et une plus grande cohérence des interventions. L'analyse des données recueillies nous a permis d'examiner différents indicateurs. Les délais d'intervention, la fréquence des situations, leur récurrence, ainsi que les perceptions des différents groupes concernés. Les résultats sont encourageants. Les intervenants démontrent un très haut niveau de satisfaction, supérieur à 94 %. Les délais de prise en charge sont perçus comme rapides et plusieurs indicateurs suggèrent une amélioration du sentiment de sécurité chez les élèves. Nous avons toutefois identifié certains aspects à améliorer, notamment la cohérence des interventions et le suivi après la résolution des situations. Ces constats nous ont amenés à prendre trois décisions principales: maintenir l'outil, poursuivre la formation des intervenants et renforcer les mécanismes de suivi post-intervention. Évidemment, comme tout projet, celui-ci comporte certaines limites. Mesurer le sentiment de sécurité chez les adolescents demeure complexe. Certaines données reposent sur de petits échantillons et la nature même des situations influence parfois les délais de traitement. Nous savons également que certains élèves hésitent encore à signaler des situations par crainte d'être perçus comme des dénonciateurs, des snitchs, comme le disent les jeunes. Si je poursuivais mes recherches, j'aimerais notamment étudier l'impact à long terme de l'outil sur le climat scolaire, approfondir l'analyse de la récurrence des situations et mieux comprendre les facteurs qui influencent la dénonciation des actes d'intimidation et de violence. En conclusion, le principal apprentissage de cette démarche est le suivant. Lorsque nous passons de l'intuition à des données concrètes, nous comprenons mieux nos enjeux et nous sommes en mesure d'agir plus efficacement. L'outil Première Ligne nous permet aujourd'hui de mieux documenter les événements, de prendre des décisions plus éclairées quant aux sanctions et références, mais surtout d'offrir une organisation plus structurée des interventions auprès des élèves. Je terminerai avec une question qui mérite quand même réflexion. Je me demande souvent si les lois et les mécanismes actuellement en place au Québec sont suffisants pour encadrer efficacement l'intimidation et la violence dans nos écoles et répondre aux attentes des élèves, de leurs parents, du personnel, du ministère, du protecteur de l'élève, etc., etc. Malgré les plans de lutte, les ressources spécialisées et les nombreux efforts déployés, plusieurs victimes et leurs proches continuent d'affirmer que les écoles n'en font pas assez. Un simple passage sur Facebook suffit à nous le démontrer. On entend souvent la phrase « l'école ne fait jamais rien », alors que des sondages démontrent que plus de 90 % des intervenants scolaires nomment intervenir en situation d'intimidation. C'est environ le même pourcentage de jeunes qui nommera l'inaction du milieu scolaire et des mêmes intervenants. Voilà peut-être un sujet que nous pourrons explorer dans un prochain épisode. Mon nom est Vincent Huard et je vous remercie de votre écoute.